drogue pas.
Bon, je dis fake news. Qui a dit qu'en France on ne se droguait pas ?
Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a moi-même François, nous avons Rénal Paris.
Bonjour.
Christophe Willard.
Bonjour.
Et Dominique Candeille.
Ouais.
On vous a préparé un très beau sommaire aujourd'hui.
Fake news, moi je dis fake news.
Et on va apprendre beaucoup de choses, notamment si vous êtes curieux en matière de sécurité. On va un peu explorer la sécurité informatique, lien internet, etc. Au niveau des objets connectés.
On va essayer de ne pas se faire hacker en direct.
On va essayer. Nous aurons aussi, suite un peu au salon Ludigeek que nous avons mentionné la semaine, lors de la dernière émission, vous savez que nous adorons les jeux de société. Et il y en a un gros qui est sur la liste de cette émission aujourd'hui. Nous allons vous parler de Keyforge et on a plein d'infos par rapport à ce jeu de cartes qui cartonne en ce moment. Bien sûr, des news en tout genre qui nous ont assez marqués, qui nous font assez rire.
On va partir dans tous les sens. Hein.
Et on est le 22 décembre, donc forcément, nous allons ramener un peu l'esprit de Noël dans le studio de Radio Campus. Et sous le sapin, il y a plein de magnifiques CD que nous allons déballer en direct. Et on va écouter ça avec une attention toute particulière qui nous caractérise bien.
Bien sûr.
Et je vous propose tout de suite de parler un peu sécurité. Et notamment sur la sécurité des satellites. Puisque c'est vrai que depuis plusieurs années, nous utilisons de plus en plus la technologie des satellites.
Radio Campus est diffusé sur satellite maintenant, grâce au DAB+. Et oui.
Et on utilise quasiment tout ça. Hein. Si vous regardez votre téléphone, il a un système GPS. Donc forcément, vous utilisez potentiellement un satellite lorsque vous connectez. Et on en lance depuis plusieurs années. Hein. On en lance de plus en plus. Et la majorité, enfin une grande partie des satellites ont beaucoup de failles de sécurité pour la simple raison qu'ils tournent encore sur des vieux opérationnels systèmes, donc encore sur Windows 95.
Ça coûte d'envoyer un ingénieur IT dans l'espace pour mettre à jour ton Windows 95.
C'est vrai, on n'y a jamais pensé, ça. Ce qui fait que, et c'est pareil pour tout, hein, si vous utilisez votre ordinateur à l'heure actuelle, vous pouvez vous remarquer qu'il y a de plus en plus de mises à jour à faire tous les deux du mois. Alors sur Windows 95, on se doute bien qu'il doit y avoir un nombre de failles qui ont été exploitées depuis bien longtemps. Alors la grande question, est-ce que c'est dangereux ou pas ?
À mon avis, Windows 95 est moins dangereux, plus sûr qu'un Windows 10 de maintenant mal géré.
Que les systèmes actuels, c'est clair.
Parce que les pirates justement se disent, Windows 95, personne n'en a, donc pourquoi on se fatiguera à créer des virus ?
Alors quels sont les risques ? Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on n'a qu'un satellite qui tourne autour de la Terre ?
Tu peux le diriger comme dans les bons films de science-fiction.
Ah, effectivement, ça c'est l'un des premiers points.
Il tourne encore autour de la Terre parce qu'il est déconnecté, il n'y a plus que la gravité, il est complètement... il est libre de...
On les hack, et puis de ton téléphone, tu peux faire des courses de satellites. C'est plus amusant que les... C'est un peu plus cher que les courses de drones, mais ça peut le faire.
Ouais, ça tombe ceux qui sont sur la station Mir. Est-ce qu'ils font pas justement
ça? Tu écris ton nom.
C'est plus la station Mir. Hein. On est passé à ISS depuis. Hein.
Ouais, j'en connais qui en profitaient pour faire des dessins dans l'espace en alignant les satellites. Mais bon, on va pas encourager les idées comme ça.
Donc, premier risque, effectivement, vous déplacez la trajectoire du satellite qui fait qu'il va rentrer en collision avec un autre objet. Donc, ça peut être extrêmement embêtant. Le deuxième, c'est que, comme on l'a dit, beaucoup de gens utilisent les GPS, mais également l'armée, hein, que ce soit l'armée américaine,
Je crois qu'ils ont leur propre système qui doit être super sécurisé. Ils doivent être au moins un Windows 98, leur satellite.
Mais si jamais tu arrives à changer ces données GPS, tu peux éventuellement influencer sur des choses qui se passent sur Terre. Donc ça, c'est potentiellement aussi dangereux, sachant que les gouvernements s'appuient beaucoup sur ces technologies.
Et il me semble d'ailleurs que les systèmes GPS, comme la Terre tourne, il faut que le logiciel qui soit embarqué sur l'ordinateur des gens soit aussi à jour, sinon il y a une dérive en fait des informations, il me semble.
C'est possible. Oui. Ce qui fait que est-ce qu'on arrive facilement à pirater ces satellites ? C'est la grande question. Et apparemment non. puisqu'il faut quand même être à une certaine distance du satellite pour pouvoir commencer à communiquer avec.
Ça fait que tu envoies un satellite.
C'est ça.
Hacker, à jour, pour hacker l'autre satellite.
Voilà.
Waouh.
Et en plus, il faut le trouver, le satellite, parce que tu ne vas pas envoyer quelque chose dans l'espace en disant hop, je vais choper le premier satellite qui passe. Non.
Enfin, en espérant qu'il soit sur Windows 95.
La lueur de l'écran bleu.
Voilà, au loin, tu sais.
Si tu vois une étoile bleue dans le ciel, en fait, c'est un satellite avec un écran bleu de Windows. C'est pas une étoile, c'est pas une planète.
Alors, si vous suivez un peu l'actualité spatiale, vous savez que SpaceX, en ce moment, essaye d'envoyer des roquettes de plus en plus lourdes. Et maintenant, ils sont capables d'envoyer deux fois plus de satellites en une fois. Je pense qu'on a 18 satellites qu'ils arrivent à envoyer et déployer en même temps. Donc, c'est vrai que c'est que le début. On a peur, puisqu'on avait vu la dernière fois une news d'un satellite chinois dont ils avaient perdu le contrôle, qui était perdu un peu dans l'espace et qui s'était écrasé sur Terre, puisqu'ils n'avaient plus moyen de corriger la trajectoire.
La trajectoire, hein.
Ça vous a pas échappé qu'on parle depuis quelques années du big data. Mais en fait, il y a différents types de big data, puisqu'aujourd'hui c'est un terme qui va être utilisé à tort et à travers, mais à l'origine, ce sont quand même des données, notamment chez les chercheurs qui vont étudier l'astronomie. Ils vont récupérer des teraflops de données par jour, quoi. Et on sait aussi que dans les prochaines années, on va avoir le nombre de données, tout type d'informations confondues, doublé, puisqu'on a de plus en plus d'objets connectés. Et ces données donc en temps réel, etc. Donc le piratage, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, bien au contraire. Et...
Disons que si quelque chose arrête le piratage, c'est la masse de données.
Oui.
Tu vas te noyer sous les informations et les hackers vont plus savoir quoi hacker. Ils vont laisser tomber, je crois.
Tu crois? C'est possible.
Oui, mais en même temps, avec l'intelligence artificielle, on peut se demander.
Mais si tu hackes l'intelligence, on va arrêter.
Il y a une intelligence artificielle qui hack sa propre intelligence artificielle. Ça peut être sympa, ça.
Et ça me fait penser aussi à un projet mené par un écrivain français qui a, si vous connaissez l'image de la Terre que tout le monde connaît.
Donc elle est plate, c'est ça?
Elle a été, elle a été produite en 1972.
Fake news.
En 1972, elle a été produite. C'est un angle particulier qui a permis de faire cette belle photo. Et en fait, depuis, c'était la seule photo disponible voilà. Et dans les années, à la fin des années 90, Al Gore avait un projet de renvoyer un satellite pour pouvoir refaire des photos.
Juste pour reprendre une photo, pour prendre un selfie.
Et en tout cas, ça n'avait pas été possible parce que il y avait eu, pour des raisons politiques. Mais finalement, beaucoup plus tard, donc en 2015, ils ont renvoyé un satellite qui a cette fois pu à nouveau faire des belles photos de la Terre. Donc ce chercheur français, il a travaillé avec d'autres personnes pour récupérer ces photos parce qu'en fait, c'est des mises à jour régulières et faire un film. Et dans l'idée que il y a ce qu'on appelle l'overview effect, qui fait que un astronaute, quand il va dans l'espace et qu'il voit la Terre depuis l'extérieur, il prend conscience de l'importance
Exactement.
De la planète. Et donc l'idée,
on peut pas envoyer tout le monde dans l'espace pour tous les hommes politiques pour qu'ils prennent conscience de la planète.
Voilà. Et donc il a lancé un projet qui s'appelle Blue Tern.
Enfin, on pourrait les envoyer, mais je suis pas sûr qu'on voudrait le faire.
Non. Ouais, on pourrait. Ouais. D'ailleurs, s'il y a une subvention, un Kickstarter pour ça,
envoyer tous les hommes politiques.
Un lien Ulule, n'importe. Hein, envoyer.
Et donc là, son idée, c'est de pouvoir projeter cette vue de la Terre maintenant avec des hautes résolutions, etc., tout partout. Donc il y a un mouvement en fait planétaire de diffuser à petite échelle ou à grande échelle sur des événements, etc.
Le selfie le plus cher du monde.
Je crois même que
en plus, il s'est même pas vu dessus.
Ils font appel à des artistes je crois que c'est David Guetta qui va faire un mix.
C'est bon, on est sauvé.
Artiste,
la planète est sauvée.
Artiste
et
David
Guetta. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, Donald Trump,
qui est fan des selfies, donc je pense avec lui,
a voulu faire arrêter cette diffusion d'images par le satellite parce que ça le
stressait.
Al Gore, ils ont une dent contre lui. Et donc voilà, mais bon, finalement les chercheurs, comme ils sont ralliés plutôt à la cause de la recherche, ils ont réussi à faire empêcher l'arrêt de ce satellite. Mais je veux dire que les problèmes sont pas uniquement piratage informatique, mais aussi c'est les problèmes
politiques. Politique, exactement. Quand on sait que Donald Trump a été élu par des hackers russes, voilà, ça devient.
On va se faire couper, Dom. Allez, on va revenir sur Terre avec d'autres piratages qui nous ont marqués. Et là, c'est Kevin Mitnick, qui est plus ou moins un hacker célèbre.
Ah oui, le pirate là depuis célèbre, oui.
Et
il a commencé très tôt, justement.
Et dans certaines interviews, il a raconté un peu ses débuts dans le piratage. Et c'est vrai que c'est assez sympathique. Il s'en est pris, une de ses premières cibles, c'était un McDonald's. Alors comment est-ce qu'il s'y est pris lorsque vous faites une commande Drive? vous avez un petit piqué avec dedans un micro et une enceinte où la personne va.
Un employé dans la boîte en fait ?
Non.
Ah, je suis déçu.
Et du coup, vous faites votre commande et la personne est à quelques mètres dans l'établissement, la note, et vous la délivre par la suite. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en face, au bout de la, enfin, à l'autre côté de la rue, dans sa voiture. Il avait une petite CB, une radio de 5 watts. Et il a réussi. Alors, 5 watts, à l'époque, apparemment, c'est énorme. Ce qui n'était pas le cas du McDonald's. En se mettant de l'autre côté de la rue, donc, il arrivait à pirater le système de commande. Et se faire passer pour un employé.
Donc c'est lui qui prenait les commandes.
C'est ça. Alors, il a fait des petites blagues, du genre, vous êtes le 100e client, votre commande est gratuite, faites-vous plaisir.
Il faut savoir d'ailleurs que avant la popularisation d'Internet, on avait des fanzines amateurs qui publiaient des faits par des hackers et qui donnaient plein d'astuces comme celle-là, par exemple. On imagine que ça a été publié. Et moi, je me souviens que je suis allé à Londres il y a une vingtaine d'années, à l'époque où il y avait encore le Tower Records, qui était un peu l'équivalent de... Enfin, un bâtiment entier consacré à la culture, un peu dans la lignée des FNAC. Et on avait au sous-sol, on avait un rayon avec les fanzines de hacking. Quoi. C'était assez étonnant.
Et toutes les solutions pour avoir... À la MacGyver, avec un trombone et un chewing-gum, tu arrivais à hacker une cabine téléphonique.
Et d'ailleurs, j'ai vu passer récemment une news comme quoi... alors je sais plus si c'était les services secrets américains qui ont libéré aussi parce que eux-mêmes avaient un fanzine interne c'était pour en tout cas leur newsletter sur tout ce qui était lié aux informations sensibles, mais ils avaient leur propre et donc ils ont libéré ces informations qu'on peut aujourd'hui consulter donc depuis les années 70. Alors je sais pas jusque à quelle date ça va, mais pour les curieux, c'est quelque chose à découvrir.
Avec tout ça, si tu hackes pas un satellite, franchement, t'es nul. Hein.
Mais en revenant au McDonald's, j'ai un ami, lui, bon, ça c'est plus récemment, c'est quelques années, arrivé donc en rentrant dans le McDo, prenait son portable, se commandait quelque chose, et arrivé à force de... Donc il se connectait au réseau Wi-Fi, arrivé à envoyer des paquets aux personnes qui se connectaient, mais également au routeur, jusqu'à tel point qu'il arrivait à se faire passer pour toutes les entités du réseau. Et donc... Il récupérait les informations qu'on lui envoyait, il les redonnait à la bonne personne, mais entre-temps, ça veut dire qu'il était capable de tout lire.
Mais c'est classique, tu vas dans une gare, dans un endroit public, tu as un Wi-Fi public qui s'affiche, il suffit qu'avec ton téléphone, tu émettes un nom de réseau qui ressemble un petit peu, et peut-être que les personnes vont se connecter à ton téléphone au lieu de se connecter au vrai réseau, et puis tu peux capter toutes les informations que tu veux. À propos de McDo et compagnie, on se rappelle, on avait un ami commun, lui, il faisait encore plus fort au niveau hacking, il allait chez McDo et il utilisait ses bons de chez Quick, etc., il arrive à avoir la déduction. Donc ça, c'est encore plus fort qu'au niveau hacking.
Je peux vous donner un autre exemple de hacking qui fonctionnait pour le coup en France, c'était avec le Minitel. Comme vous le savez, le Minitel, c'était un service un peu à la façon Internet, mais en beaucoup plus lent, mais surtout, c'était payant. Puisque vous aviez différents 36 quelque chose, 36-15 étant le plus standard, mais vous en aviez 36-14 qui était moins cher et 36-16-17 qui était encore plus cher à la minute. Et donc, dans les postes, il y a une vingtaine d'années encore, vous aviez un terminal Minitel pour que les gens puissent consulter l'annuaire, c'est-à-dire le 11.
Je m'en souviens.
Tu te rends compte, on allait à la poste consulter l'annuaire sur Minitel.
Et donc, vous n'aviez pas de... Donc, pour composer le numéro, à l'époque, il fallait un combiné et donc des touches. Et sur ces télé... Vous aviez un téléphone, mais sans cadran. Et vous pouviez juste composer le 11. Enfin, vous aviez un bouton pour faire le 11, voilà. Ouais. Et vous connectiez au service. Et donc, il y avait des gens qui avaient trouvé l'astuce pour composer le 3615. Alors, comment ça marche? C'est que, si vous vous souvenez, les anciens téléphones, vous aviez le combiné qui était posé sur deux touches, deux supports en plastique.
Enfin, appuyer sur le téléphone.
Et donc, il suffisait de faire un peu comme du morse. Vous composiez trois fois d'affilée, vous appuyez rapidement sur ces touches, vous lâchiez. Vous refaisiez six fois d'affilée, lâchez une fois et cinq fois et... En fait, ça envoyait le signal 3615. Et donc, après, vous pouviez accéder à tous les services. Alors, bien sûr, quand les gens passaient des heures à la poste, après, on pouvait s'interroger. Mais, en tout cas, ça fonctionnait.
Si ton correspondant avait un nom très, très long et compliqué, un nom étranger, un nom de Madagascar, etc., bah, tu pouvais passer une heure à chercher son nom sur le...
Mais si on veut remonter encore plus loin, on a un autre...
Attention.
Un king encore plus... C'est le Captain Crunch. Alors, c'était comment pouvoir appeler des numéros dans le monde entier gratuitement. Mmh. Et ça remonte aux années 70. Et je crois que c'est Steven Wozniak, donc l'associé de Steve Jobs,
co-créateur d'Apple,
qui avait découvert... Donc, aux États-Unis, dans les années 70, vous aviez une marque de céréales qui proposait en cadeau un sifflet.
Oui.
Ce sifflet avait une fréquence qui était de 2600 Hz. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les lignes téléphoniques aux États-Unis, enfin, il y avait en envoyant un certain signal, on pouvait déclencher une action, en fait. Enfin, je vous la fais courte. Mais en gros, pendant longtemps et encore jusque dans les années 90, puisque moi je l'ai vu faire, vous aviez après, donc le système s'est beaucoup amélioré, mais vous aviez des logiciels sur ordinateur, je pense Atari, Amiga, peut-être PC également, qui vous permettaient de composer un signal sonore que vous envoyez sur une ligne téléphonique. Alors vous appelez, non, alors dans l'ordre, si je ne me trompe pas, on appelait un numéro gratuit, les lignes vertes, oui, je crois, c'est ça. On composait un signal spécial et après on pouvait composer n'importe quel numéro dans le monde et on pouvait avoir quelqu'un. Enfin, on arrivait.
On faisait
à
une
avoir...
sorte de transfert d'appel manuel.
Un petit peu
ça, oui. Et donc qui payait la communication? Bah, il me semble que c'était du coup
le numéro vert.
Le numéro vert, ouais.
Ah, c'est fort. Alors si on revient un peu à l'époque d'aujourd'hui, hein, on a pris un sacré coup là avec le Minitel. C'est dur. On a des objets connectés qui fleurissent de plus en plus. Si vous regardez votre maison, vous avez même maintenant les enceintes Alexa, Amazon, où vous allez carrément parler ouvertement et puis elle va recevoir des instructions.
Mais même si tu parles pas, elle écoute.
Ouais, ouais, c'est... D'ailleurs, il y a des gens qui, même sans avoir activé le micro, avaient leurs données récupérées.
Alors je crois que c'est un Allemand qui a demandé à Amazon d'avoir ses données. Hein, parce que vous avez le droit de faire... en plus, on est en Europe, donc c'est d'autant plus vrai. Il a reçu... donc c'était pas que des données à Amazon Alexa, mais il a reçu des données de toute nature qu'il concernait, plus des données à Alexa, sauf qu'ils se sont trompés. Mmh. C'est une erreur humaine de chez quelqu'un de chez Amazon qui a envoyé des données d'une personne, mais il a inversé. Donc cet Allemand a reçu son historique de conversation Alexa.
En MP3.
Ouais, enfin oui, non, mais en tout cas, c'était pas les siennes. Et donc il en a parlé à un journaliste allemand et ils ont réussi à retrouver, grâce aux informations sonores, retrouver la vraie personne ils l'ont contacté.
C'est un scénario de film.
Il a confirmé, etc. Donc après, ils ont prévenu Amazon, le problème est résolu, mais vous voyez un peu où ça peut mener.
Une erreur humaine. Pour Amazon, humaine. Effectivement, ça ne fait pas trop, puisque de un, ils dévoilent le nombre de données qu'ils auront par personne.
On s'en doutait un petit peu.
Puis bon, on peut se douter de ce qu'on peut trouver éventuellement sur des enregistrements audio vous concernant. D'autres objets qui sont assez insolites lorsqu'on voit le piratage qui est effectué, là ça se passe dans un casino. Et les pirates ont réussi à extirper 10 gigas de données, donc qui concernaient soit les joueurs, soit les tables de jeu, etc.
Les fichiers clients.
Et compagnie, oui. Ouais. Très intéressant.
Grâce à un thermostat situé dans un aquarium.
C'est très fort.
Et c'est là que tout commence à devenir assez incroyable.
J'imagine que les casinos sont bien sûr super sécurisés, ils ont réseau, ils pensent à sécuriser leurs caméras, leurs entrées, leurs banques, leurs coffres-forts, etc. Mais un simple aquarium qui a priori juste un élément de décor, effectivement, peut être connecté lui-même.
Faut dire deux mots rapidement sur pourquoi tout ça est possible. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux en général, tous réseaux confondus, y compris maintenant les réseaux téléphoniques, passent tous par le même système qui est le protocole IP, qui est le protocole d'Internet. Ce qui n'était pas le cas avant.
Avant, peu... c'était même compliqué parce qu'il y avait chaque objet avait presque son réseau, quoi.
Alors peut-être que c'est pas le cas, je crois, encore pour des réseaux, par exemple, pour le nucléaire en France, on va avoir quelque chose de parallèle. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez des moteurs de recherche, ou on va dire des robots, mais il y a aussi des moteurs de recherche qui scannent toutes les plages, toutes les adresses possibles, inimaginables d'Internet. Et ils essayent une par une et essayent de voir est-ce qu'il y a des ports ouverts, des failles, on va dire, dans le système. Et vous avez donc un moteur de recherche qui met ces informations à disposition. Alors après, ça peut être... Mais donc pour les pirates, c'est super pratique. Vous pouvez trouver toutes les caméras de surveillance qui sont pas protégées, par exemple.
Oui, on a eu un site comme ça. Hein. D'ailleurs, à Lille,
on a pu voir une pharmacienne s'occuper de ses clients pendant 2 heures. C'était super. On s'ennuyait un peu ce moment-là.
En plus, il y a des caméras partout et la qualité des images est de plus en plus élevée. Donc, tu peux arriver à récupérer quelqu'un qui fait même un signe à une caméra, etc. Si la caméra est bonne, tu peux récupérer, tu prends une photo super en clair de ses doigts, donc tu as ses empreintes digitales. Donc, tu peux reconstituer ses empreintes digitales et les utiliser pour hacker un autre appareil sur lequel la personne se connecte.
Quand on voyait ça dans les films il y a 10 ans, c'est n'importe quoi. Ouais,
surtout
ça devient
surtout que là, sur le site, on avait aussi vu que les caméras avaient été dirigées vers les clients, mais l'écran des magasins sont dirigés vers la caissière. Donc forcément, la caméra voit les écrans et les claviers. Et donc, la personne qui regarde cet écran voit aussi tout ce qui se passe, voit les codes qui sont mis, voit les...
Souvenez-vous des distributeurs bancaires. Il y a quelques années, on parlait des pirates qui mettaient des caméras au-dessus du clavier.
Pour voir les codes de carte bleue.
Voilà. Ah. Et donc, c'est toujours possible. Mais aujourd'hui, avec d'autres caméras, si elles sont...
En carte bancaire, maintenant on a le sans contact.
Ça c'est encore pire.
Mais lorsque je faisais un peu de shopping sur Amazon, je vois des portefeuilles où ils te mettent sécurisé pour les cartes. Et je me fais, mais de quoi ils me parlent? Et en fait, il est possible de hacker le sans contact de votre carte. Alors il y a un moyen qui est un peu fastidieux pour les hackers, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Lorsque vous faites un paiement au tabac ou au magasin, peu importe, votre sans contact reste activé pendant 15-20 secondes. Si un hacker est près de vous, un petit boîtier, il est capable de récupérer donc ce signal et ensuite de créer une sorte de fausse carte qui utilisera votre sans contact.
C'est passé pour la tienne.
Je pense que c'est possible n'importe où. Prendre exemple, si tu es dans le métro et que quelqu'un s'approche de toi avec ce dispositif, ça marchera aussi.
Il doit peut-être pouvoir activer. Surtout que maintenant, en plus, on parle des cartes bancaires, mais sur ton téléphone, tu peux avoir le Google Pay ou le Apple Pay, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est activé par défaut.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des parades. Puisqu'en fait, c'est le principe de la cage de Faraday, c'est qu'il va protéger des ondes. Donc moi, je possède moi-même, par exemple, pour protéger ma carte, j'ai un petit étui en papier, mais qui a un élément, enfin, il doit avoir du fil électrique à l'intérieur, qui fait que
tu prends un emballage de chewing-gum, hop, tu mets ta carte.
Mais voilà, en gros, ça bloque.
Et hop, c'est parti, quoi.
Ça empêche ce système. Le seul moment où je suis faillible, c'est quand j'enlève ma carte pour payer, par exemple. Donc là, il faut être très rapide.
Tu la remets tout de suite.
Voilà.
Alors, est-ce que tout simplement ne pas demander à sa banque de ne pas fournir une carte sans contact?
Tu peux la désactiver, tu peux demander à ce que désactive.
Par contre, tu ne dois pas faire un trou avec la perceuse dans ta carte. Non, parce qu'il y a des gens qui, à l'époque, parlaient de ça, mais c'est illégal, entre guillemets, de modifier sa carte.
Après, il faut faire confiance à sa banque, mais ça, c'est autre chose.
Allez, il est 13h25, je vous propose d'écouter un peu de musique.
Il serait temps.
Puisque là, je vais préparer mon chapeau de Noël, il est prêt. Je vais demander à Reynald d'aller chercher sous le sapin un des beaux CD qui nous attend.
Bon, je vais faire un sapin, je vais mettre un cadeau en dessous et je reviens.
Il faut dire qu'à Radio Campus, on est les seuls qui se dévouent à écouter ces albums qui arrivent au pied de la porte et qu'on a fraîchement emballés.
Alors, on pourrait avoir une prime de risque pour ça, justement, ou pas?
Le premier album...
Alors, attends.
On a du bruitage, c'est bien fait ici.
je te laisse, tiens, je te le donne, c'est pour toi.
C'est un acteur assez célèbre.
Très connu.
Enfin, il est même
mythique,
pas que acteur.
Une légende.
Hein. On a un bel album de William Shatner. Dom, je te laisse faire une petite présentation si besoin.
Le célèbre Captain Kirk de Star Trek, quoi.
Effectivement.
Il est encore en vie.
Il a fait beaucoup de choses et dernièrement, je vois qu'il a fait une voix dans Petit Poney. Donc voilà, il est...
quelle vie trépidante. Il a quand même du temps entre tout ça pour faire de la chanson, pas de la chanson.
Il aurait fait au début de sa carrière, pourquoi pas, mais là, bon, il va pas dans le bon sens.
Et il a décidé pour Noël, pour s'excuser, puisqu'il n'a pas toujours été sage apparemment, de nous aider à vivre ce Noël. Alors, j'ai Jingle Bells en première piste d'homme. Et alors, je sais qu'il y a des feats dans cet album, c'est bien ça?
En fait, oui, il a appelé des grandes vedettes. On peut y retrouver Iggy Pop à ses côtés.
Oh, on en écoutera. Cet album va nous suivre jusqu'à la fin de l'émission et on découvrira d'autres albums puisque je sais que Dom attend un groupe célèbre. On écoutera tout à l'heure.
En entier, quand même.
J'ai l'impression d'en rentrer dans le magasin là.
Le Captain Kirk qui raconte des histoires de Noël quand même.
J'ai l'impression qu'il y a une reine qui est en train de le mordre, non? C'est pas ça. Ça me fait penser que des chercheurs ont étudié l'aspect scientifique de la possibilité pour le Père Noël de livrer tout le monde dans les temps. Et donc c'est assez intéressant de s'attarder là-dessus. Donc par exemple, on estime qu'il faudrait 91,8 millions de livraisons effectuées pour toute la nuit. Et donc il faudrait au moins 34 heures. Donc c'est un sacré challenge.
Ouais, parce que c'est pas. Vu qu'il fait le tour du monde et que le soleil se déplace, il a 34 heures de rab, c'est bien. Dom, tu veux nous faire. Je vois qu'il y a Iggy Pop sur la piste que tu m'as demandé de sélectionner. Alors si vous allez sur le Facebook de Heureusement en France, vous aurez cette belle image de William Shatner avec son bonnet de Noël et ses belles lunettes de soleil. Ça sent Iggy Pop. Hein.
On n'a pas encore bu là. Cette magnifique voix cassée, la force d'alcool et de tabac. Tu passes ça à un enfant, est-ce qu'il va avoir peur? Enfin, tant que tu mets pas la photo d'Iggy Pop, ça va.
J'ai l'impression que cet album va pas plaire à un grand monde.
Attends.
Ça me fait penser que j'ai vu une pub avec...
Ça me fait plus penser.
Michael Ekonkin qui a fait une...
Est-ce que quelqu'un aurait une corde, s'il vous plaît?
Il a fait une publicité pour Google, pour les assistants Google, mais avec en reprenant son rôle de
Maman, j'ai
raté l'avion.
Voilà.
Mais sauf qu'il a aujourd'hui 38 ans. Et donc il a un assistant, assistant vocal pour du coup permettre de se battre contre les méchants.
Mais je vois qu'il sort en ce moment. Hein. Je l'ai vu faire aussi les vidéos avec l'AVGN, l'Angry Video Game Nerd. Donc je pense qu'il essaie de se racheter là, parce qu'il y a une période d'adolescence qui n'a pas été comprise par le public.
Je crois qu'il n'a pas encore commencé son adolescence.
Il faut qu'il fasse un duo avec Jordi, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
On donne pas de mauvaises idées aux gens. Dom, il en veut une autre.
Ah oui, moi je veux du ZZ Top, moi.
Il y en a un peu plus, je vous le mets.
On a quand même Rick Wakeman du groupe Yes. On a Ian Anderson de Jethro Tull. En plus, déjà, je suis content de savoir si ces gens sont encore vivants. C'est waouh. Je crois qu'ils ont commencé avant Radio Campus, leur cadre musical, tu vois. You know
Dasher. Découvrez qui ne nous a pas quittés cette année grâce à William Shatner. Comet, and Cupid, and Donder, and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph, the red-nosed reindeer. Oh, he had a very shiny nose. Tu la sens la patte de ZZ Top, hein, ça va arriver après, je te rappelle. Il y a ZZ Top. You would even say, it
glows. All of the other reindeer. Les chanteurs, enfin les, comment dire, les gens de ZZ Top sont déguisés en Père Noël.
Ah, ouais. Ils ont la barbe. Je suis sûr qu'ils l'ont fait dans un clip. Play in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, will you guide my sleigh tonight?
On dirait qu'ils ont eu l'idée. Ils étaient au bar, il était tard dans la nuit.
Mais
ils ont décidé de l'enregistrer direct.
Je m'excuse, mais si on remonte à l'histoire les meilleurs albums se sont composés dans des bars. Après des soirées arrosées.
Non, mais ils l'ont enregistré dans le bar, apparemment. Ouais, ils se sont mis dans la back room.
Attention. Ah, c'est assez ZZ Top pour toi, ça.
Allez, on fait tourner les bonnets. Allez, on va parler encore rapidement un peu de sécurité et on va enchaîner avec ce magnifique jeu de société, hein. Il y a beaucoup d'impatience. Dom, tu voulais parler d'un...
Absolument, puisqu'on parlait de Minitel tout à l'heure, on parlait d'objets connectés, et tout le monde a un magnifique objet connecté vert chez lui qui s'appelle un compteur Linky. Bon, tout le monde peut-être pas encore. Et si vous lisez, petite séquence revue de presse, si vous lisez le dernier numéro du virus informatique, vous apprendrez comment brancher votre Minitel sur votre compteur électrique Linky. C'est C'est une des nombreuses informations qu'on peut trouver, notamment dans...
Du coup, tu peux changer ta facture ?
Mais peut-être pas encore. Il faut peut-être un Minitel 2, alors.
Ou c'est juste pour faire chier le mec à chaque fois qu'il va relever ton compteur.
Pour vérifier si c'est bien ça.
Je suis désolé, il va falloir accéder au Minitel, d'abord.
Ça vous prouve... Déjà. Le plus dur, c'est de trouver le Minitel. Ça vous prouve la sécurité, c'est top.
J'en ai acheté installé.
Le compteur Linky ?
Non, de Minitel. Eh ouais.
Mais c'est trop cool, c'est un objet magnifique déjà visuellement. Tout ça, c'est pour faire surtout de la pub pour le virus informatique. Vous trouverez le numéro 38 en kiosque. Il est toujours à 2 euros. Ça fait 25 ou 30 ans qu'il est à 2 euros. Et d'ailleurs, dans ce dernier
numéro. Donc en 25-30 ans, ils ont fait 28 numéros.
Un peu plus, parce qu'il y a le virus informatique. Tu as les puces informatiques, tu as Pirate Mag, etc. Puis c'est une parution un peu régulière. Mais le prix n'a pas changé. Eux, ils ont un peu déménagé pour réduire les coûts. Maintenant, ils sont en Estonie. Enfin, ils essaient de réduire le coût maximum, toujours pour permettre de trouver le 2 ans. Donc, allez chez votre marchand de journaux. Hein, on commande pour... Vous pouvez le trouver en ligne, etc. Absolument. Demandez-le si vous ne le voyez pas. Le virus, achetez-le. Même si vous ne le lisez pas, c'est pas grave. Achetez-le pour qu'il continue à apparaître. Moi, je l'achète à chaque fois. C'est passionnant. C'est un petit peu le canard enchaîné des informaticiens, on va dire. Je pense que la comparaison leur ferait plaisir. Et justement, dans le dernier numéro, le 38, il y a plein d'histoires et d'anecdotes sur la création du virus info, de Pirate Mag, etc. C'est passionnant. Il y a plein de conseils très intéressants.
Bah, parfait. On va vous parler des mauvaises habitudes que vous pouvez avoir sur Internet, notamment lorsque vous inscrivez sur des sites et qu'on vous demande de mettre un mot de passe. Et vous en avez déjà choisi 5, 6 et à la fin vous décidez, vous abandonnez, vous choisissez toujours le même. Et apparemment, il y a eu le classement des pires mots de passe qui a toujours les deux premiers mots de passe toujours en tête sont 1, 2, 3, 4, 5, 6... qui ne peut pas être détrôné apparemment pour l'instant.
T'as plein de gens qui écoutent l'émission et qui disent « Mais il dit mon mot de passe à l'antenne, c'est pas bien !»
Le deuxième mot de passe étant « mot de passe ».
Normal.
Ou « password », selon où vous le trouvez, bien sûr.
Oui, parce que « password », il n'y a pas assez de lettres. Des fois, il faut mettre plus de 8 lettres et « password », il n'y en a pas assez. Donc tu peux faire « password 1, 2, 3, 4, 5, 6 » pour faire un combo qui est plus sûr.
Et je pense que beaucoup... Beaucoup.
C'est vrai que maintenant ils te demandent un chiffre et une lettre en même temps dans le password. Donc voilà, tu peux faire ça.
Moi, ce qui m'agace aussi, c'est que des fois on t'interdit certains caractères. De quoi je me mêle?
C'est vrai, donc si tu as utilisé un générateur de mots de passe, tu ne peux pas l'utiliser.
Tu peux mettre des caractères allemands, etc., qui ont été plein de petits points, etc. Des caractères japonais même, pourquoi pas.
Et comme certains sites demandent qu'on mette plus que 6 chiffres, hein, du coup, les gens, en troisième place du classement, nous avons forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9.
Ah. Mais oui. Ça me rappelle aussi qu'il y a un site qui, il me semble, qui a référencé les mauvais, les sites qui étaient mal conçus pour, voilà, parce que typiquement, si on vous envoie par mail votre mot de passe que vous avez tapé, c'est pas bien. Parce que le protocole pour l'envoi de mail, il est pas du tout sécurisé. Donc c'est, et puis voilà, si quelqu'un ça peut transiter en libre et.
Donc ce que font les sites sécurisés généralement, vous envoient un mail disant pour changer votre mot de passe, cliquez sur ce lien.
Déjà pour activer ton compte et après il t'oblige à changer ton mot de passe.
C'est un lien qui est valable pendant, je sais pas, une demi-heure maximum.
Et là, je prenais l'exemple de à l'inscription, on t'envoie ton mot de passe. Oui. Mais il y a pire. C'est si tu dis j'ai oublié mon mot de passe et qu'on te le renvoie par mail. Alors là, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que en base de données, le mot de passe est stocké de manière réversible. Ce qui est vraiment la très très mauvaise pratique. Un mot de passe dans une base de données il n'est pas stocké en tant que tel et ne peut pas être deviné par celui qui gère la base de données.
Tu parlais mauvais élève. Apparemment, le Pentagone. Et pas en très bonne position, puisque...
Le mot de passe, c'est quoi? C'est Trump.
La majorité des mots de passe administrateurs étaient devinables en 9 secondes, en moyenne.
Alors, je relativiserai quand même en insistant sur le fait que, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la puissance des ordinateurs fait qu'en 9 secondes, on fait beaucoup plus... c'est ce qu'on faisait en 9 heures peut-être il y a 10 ans. Il faut savoir que vous pouvez, comme il y a énormément de ce qu'on appelle les leaks, des fuites de données qui sont aujourd'hui disponibles dans la nature. Il y a par exemple LinkedIn, je crois, par exemple 1 milliard de mots de passe qui sont que chacun peut récupérer.
Le premier conseil qu'on peut donner, c'est de changer ses mots de passe régulièrement.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dictionnaire de mots de passe. Et donc, un pirate informatique qui veut hacker un système, il va essayer tous les mots de passe, par exemple, qu'il a à disposition, parce qu'il y a une chance que celui de l'utilisateur se trouver dans la base. Et comme on a une capacité avec des puissances de calcul de plus en plus rapides, ça peut prendre très peu de temps. Donc, plus le mot de passe est court, plus ça ira vite.
Voilà, donc n'hésitez pas à taper 50 caractères sur votre mot de passe si vous vous tenez vraiment à ce que vos données restent bien à vous. On va clôturer ce dossier sécurité. Juste une petite info, puisqu'il y aura un forum international de la cybersécurité bientôt à Lille, Grand Palais. Ça se passera le 22-23 janvier 2019. Donc voilà, si ce sujet vous passionne, c'est bientôt près de chez vous. Encore un peu de musique de Noël,
ouais, ouais.
Parce qu'on a un album, je vois, qui a déjà été déballé par Dom, qui est un fan de ce groupe de musique. Je vois qu'il enlève son casque, il va se barrer. Ah, ces stars américaines ont gagné un concours qui s'appelle Sing Off. Tout est fait à la voix. Ce sont les Pentatonix. Effectivement, chaque année, ils font un album. Mais bon, au bout d'un moment, les chansons connues, ben, on les a déjà fait. Donc là, on racle un peu le fond de la casserole pour vous trouver des musiques de Noël. Dom, il fait grève. Tu veux un gilet ?
Grève du casque.
On ne s'est pas interrogé sur les gilets jaunes et le Père Noël. Est-ce que ça ne va pas avoir des incidences sur la diffusion de l'envoi des cadeaux ?
Ça va faire les gilets rouges.
Les bonnets rouges, ouais. Tu devrais écouter, Dom, c'est très bien.
Tu vois, moi j'ai gardé mon casque, j'ai juste que les oreilles qui saignent, c'est tout. Hein. C'est rien de plus.
Casque, j'ai mal.
On vient de perdre la moitié des auditeurs.
C'est pas grave. J'ai Jingle Bells avec un orchestre. Dom, non. Il n'y a pas de problème. Je le passe en vitesse normale.
Bah, ce qui serait intéressant, c'est de l'écouter en version x4, par exemple. Là, ça serait intéressant.
On dirait qu'ils ont répondu à ton souhait, Dom, hein, pour que ça passe vite et chante plus vite, du coup. Allez, on va passer à un sujet plus intéressant. Ce fameux jeu de société qui était en Kickstarter et qui est...
Non, pas du tout. Parce qu'il y a qui dans le nom, tu te fais tromper.
Voilà.
Qui se lance pour nous présenter ce jeu de cartes Keyforge.
La forge des clés.
Il n'arrêtait pas de m'en parler pendant une semaine, donc c'est bon, je vais lui laisser.
Alors ça fait quoi? Ça fait un mois que le jeu est sorti, mais ça fait déjà 3 mois qu'il était annoncé. Ouais, ouais. Un grand renfort de buzz, puisque le créateur de ce jeu n'est autre que Richard Garfield. Mmh. Le fameux Richard Garfield, bon, si vous ne connaissez pas, vous avez peut-être entendu, c'est un créateur, ça fait quoi? Ça fait plus de 25 ans qu'il crée des jeux.
Oui, facilement.
J'ai l'impression qu'il prend pas toujours le même jeu, mais alors son jeu le plus connu, c'est Magic.
Si tu as dépensé tout ton argent dans ton adolescence, tu sais de qui on parle.
Après, le créateur du fameux jeu Magic.
T'as ceux qui sont moins geeks, entre guillemets, avec Magic, c'est King of Tokyo qui a fait fureur pour le jeu de société en famille.
Les jeux les plus récents, ouais. Il a fait Robo Rally. Ouais. Et il a, donc Magic l'Assemblée ou Magic the Gathering, c'est un jeu qui a eu un succès et qui a toujours du succès, puisqu'il y a toujours des nouvelles cartes qui sortent. On en est, j'ai regardé la dernière fois, on en a à plus de 18 000 cartes. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner. Alors si vous connaissez pas Magic, vous avez sans doute entendu parler de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh.
Yu-Gi-Oh,
c'est le même principe de jeu, les deux joueurs s'affrontent, ils ont des cartes avec des petites créatures qui jouent, puis t'as gagné quand soit t'as tué l'adversaire, ou etc., ou t'as marqué un certain nombre de points, c'est le même principe, c'est un jeu de cartes à collectionner, tu achètes des cartes de départ, puis de temps en temps, quand il y a des nouvelles, tu dois acheter, il y a des tournois, il y a plein de modes de jeu différents.
Alors comme son nom l'indique, le but est de forger des clés.
Alors dans Keyforge, c'est le même créateur, qui est arrivé il y a 3 mois avec une annonce, il a débarqué à la Gen Con, je crois, avec des paquets de cartes en main, il a dit à tout le monde, tenez, testez, c'est mon nouveau jeu. Les gens l'ont vu, c'est un nouveau Magic, c'est quoi? C'est le fameux tueur de Magic, parce que Magic c'est la référence, hein. Tout le monde essaye de tuer Magic, même Richard Garfield lui-même a créé d'autres jeux comme Vampire ou Netrunner, qui sont des jeux qui ont eu un succès aussi. Et il y a eu énormément de, il y a eu des centaines de, il y a des, les cimetières de jeux de cartes sont remplis de successeurs potentiels de Magic, mais Magic est toujours là plus fort, qu'on aime ou pas. Et il est arrivé avec son nouveau principe, alors c'est pas un jeu à collectionner, c'est ce qu'on appelle un jeu unique. C'est-à-dire que tu achètes un deck, c'est un paquet de cartes qui est à peu près gros comme un paquet de cartes de belote que vous achèteriez, mais au lieu de payer 1 euro pour un jeu de cartes de belote, là, c'est un paquet qui coûte 9 ou 10 euros, sont les boutiques. J'insiste, achetez vos jeux en boutique, n'allez pas les acheter sur Amazon, sur Internet, allez acheter vos jeux dans les boutiques locales. C'est un petit jeu de cartes et ton deck est unique. Alors le principe, c'est que quand tu le déballes, personne d'autre dans le monde... Il y a déjà des centaines de milliers de decks qui ont été ouverts. Personne d'autre n'aura un deck. Il aura un nom. Il aura un dessin au dos des cartes qui sera unique. Et le mélange des cartes qui sera dedans sera complètement unique. J'ai l'impression de dire unique sans arrêt, mais c'est un petit peu ça. Alors ça joue un petit peu sur ce côté découverte, un petit peu comme les pochettes surprises quand on a été content d'avoir tout ça. Mais là, c'est vraiment... alors pour expliquer le principe... Enfin, je vais pas expliquer le principe du jeu. En gros, imaginez une planète, un univers parallèle où il y a plein de mondes qui se rencontrent. Il y a des extraterrestres, il y a des ninjas, il y a des grosses créatures, il y a des humains, etc. Et ils font tous un concours. Et le but, donc, c'est des créatures qui s'affrontent pour forger des clés, pour découvrir des connaissances. Quand vous achetez un deck, alors Reynald est passé au magasin avant, à la boutique.
J'ai donné de ma personne et de mes sous.
Exactement. Il a justement acheté des decks.
C'est vrai
qu'on
comptait pas te rembourser d'ailleurs.
Voilà, c'est surtout ça. Donc me faire aller au magasin un samedi veille de Noël, merci beaucoup.
On va pouvoir procéder, magasin de jeu en plus. Ouais. On va procéder à ce qui se passe sur la folie qui s'est répandue sur YouTube. Je vais pas expliquer les règles du jeu parce que le mieux c'est d'aller voir sur YouTube. Vous tapez Keyforge sur YouTube, vous aurez des centaines, des milliers de vidéos, y compris des vidéos en français. Peut-être chercher. Allez, je vais citer quelqu'un qu'on connaît, qu'on a rencontré, qui s'appelle Keyforgeur, qui a fait pas mal de vidéos, qui a fait une vidéo notamment qui explique les règles du jeu. Parce que bizarrement, dans la petite boîte, il n'y a pas les règles du jeu. Il faut aller les chercher sur Internet.
Même si tu achètes la boîte de base.
Alors, la boîte de base, si tu l'achètes déjà, tu peux pas parce qu'elle est plus trouvable. Elle va revenir peut-être en février. Et même, il y a un extrait des règles dedans. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur Internet, il y a plein de gens qui se sont amusés, comme ça, à faire des ouvertures de decks. Donc, on a deux decks dans la... Lorsqu'il y a des volontaires pour ouvrir un deck, on va procéder à des ouvertures de decks. Donc, en gros,
c'est un deck,
c'est
unique.
Une boîte en carton.
C'est un moment qui restera gravé.
C'est à peu près la taille d'un jeu de cartes de belote, comme je vous expliquais. Et quand tu l'ouvres, tu découvres. Donc, il faut savoir que dans l'univers de Keyforge, pour l'instant, il y a 7 factions différentes, des races. Il y a les Bromnar, les Shadows, etc., qui ont chacun des capacités spéciales. Et quand tu achètes un jeu de cartes, il y a 36 cartes dedans. Bon, là, il y a une 37e carte qui te rappelle, qui est un peu résumé de ton truc. Et il y a 36 cartes qui sont séparées en 12. Il y a 12 cartes d'une faction A, 12 cartes d'une faction B, 12 cartes d'une faction C. Il peut y avoir des créatures, des sorts, des choses comme ça. Et tu es sûr que personne d'autre dans le monde n'aura exactement le même deck, n'aura les mêmes créatures. Peut-être qu'il y aura des créatures en commun avec ton deck, peut-être qu'il aura une créature que tu as en double exemplaire, peut-être que lui l'a en quadruple, etc. Et tu vas pouvoir, avec ton adversaire, déballer ton deck, la prendre et puis jouer directement. Et c'est ce principe de deck unique. Alors, ils ont calculé, ils ont un algorithme, un ordinateur qui fabrique, qui a généré aléatoirement le nom, les dessins et le mélange, la composition de ton...
Ils n'ont pas le droit de le rebooter, alors.
Vaut mieux pas.
Bah, c'est justement quand on parle de choses uniques, c'est qu'après tu te dis la différence entre le marché francophone, le marché anglophone. Parce que tu as des decks qui sont des noms en anglais.
Nous, on l'a en français.
Et nous, on l'a en français. Et il ne faut pas que les noms soient pareils, il ne faut pas que les cartes soient pareilles.
C'est en italien, en espagnol, si je ne dis pas bêtise. Et ce principe d'unicité est assez amusant parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si on l'appliquait à d'autres. Voilà, François est en train d'ouvrir son deck.
Et je vérifiais qu'il était bien scellé.
Il faut vérifier qu'on ne se trompe pas.
Hein. Quand c'est ouvert, c'est ouvert.
Achetez vos jeux en boutique et pas sur Internet parce que, oui, bien sûr, il y a un marché. Alors, ça fait partie Richard Garfield et son équipe, on compte bien sûr sur le second marché, ce qu'on appelle le second marché, c'est-à-dire qu'il y a des decks, quand tu l'achètes, tu ne le déballes pas. Si tu penses que ton deck est peut-être plus ou moins puissant, peut-être qu'il a plus de chances que de gagner, ou peut-être qu'il y a des choses plus rares dedans, il y a plein de gens qui les ont ouverts, qui les ont mis tout de suite sur Internet. Il y a un fameux deck, celui qu'on appelle du double 7 cavaliers. Alors, c'est le fameux deck où il y a... Comme par hasard, il y a certaines cartes qui sont un petit peu plus rares, peut-être soi-disant un peu plus puissantes, mais c'est pas sûr. Et il y a un fameux deck, quelqu'un qui a eu un deck où ces fameuses cartes plus puissantes, c'est en plus en double exemplaire. Il l'a mis sur Internet, il est vendu à 2 000 $, si je dis pas de bêtises.
Les cartes à collectionner.
C'est juste au lancement du jeu, sur la folie du jeu des anciens joueurs de Magic qui savent qu'il y a des premières cartes de Magic qui se vendent des milliers de dollars, alors qu'ils n'ont pas réalisé que c'est un jeu vraiment complètement différent.
Et alors, tu peux pas tricher en remettant des cartes.
Justement, non. Tu n'as pas le droit de mélanger ton deck. Non. Sur chacune des cartes, le dos est identique, le dessin, et il y a le nom de ton personnage. De toute façon, si tu le fais, les cartes, il y a un produit chimique dedans, et si tu mélanges, essaies de mélanger des cartes, elles explosent.
Et non, mais c'est surtout que tu peux avoir des cartes identiques qui ont le même nom, les mêmes effets. Mais comme dit Dom, entre le deck de François et celui que j'ai dans les mains, tu auras le nom de ton deck sur ta carte. Donc elle sera déjà de fait différente avec celui de François.
Tu peux t'amuser avec tes potes, mais officiellement en tournoi, parce qu'il y aura des tournois, tu n'auras pas le droit de venir avec un deck même incomplet. Et si tes cartes sont abîmées, tu te feras jeter dehors.
Alors je viens d'ouvrir ce magnifique paquet. Et donc chaque carte, hein, toutes les cartes ont le même dos avec une sorte de vert.
Tu peux voir le dessin
de le nom, là-bas. C'est J.U. Flores, fondatrice de la douceur.
Oh. Ah bah.
C'est beau.
Et je viens d'ouvrir le mien justement pour faire la comparaison de ton nom. Là, le mien, c'est Holt, prophète du bastion de la colère.
Ouais. Après, il y a un gentil et un méchant dans l'histoire. Ouais. Hein.
Ah, tu sais pas, justement, c'est ça qui est bien, c'est que tu ne sais pas à l'avance. Alors, vous voyez, on voit sur la photo, il y a les trois dessins des trois factions qui sont dans votre...
Et derrière, on a une carte avec toute la liste des cartes et leurs factions. Donc, j'ai 10, Logos et Mars, pour ceux qui
Il y a un QR code aussi. Alors
exactement, il y a un QR code, et parce qu'il existe une application, un site internet. Si tu prends en photo le QR code de... Moi, non, je ne vais pas le faire, parce que cette carte est déjà enregistrée. Tu peux l'enregistrer dans ton deck. Moi, si je lance mon application, je vois les decks que j'ai. J'en ai 6 qui sont enregistrés, et je peux les comparer. Et si un jour, je décide de revendre, parce qu'effectivement, peut-être que j'ai un deck qui semble amusant, etc., mais peut-être que ça ne correspond pas à ma façon de jouer, peut-être que je vais le revendre ou l'échanger avec quelqu'un, il suffira sur mon téléphone que je remette le nouveau deck, etc. Et tout se joue là-dessus. Donc tu as du Mars. Mars, c'est des créatures, c'est des extraterrestres, vraiment, c'est copié sur Mars Attack, c'est vraiment ça. Et l'autre côté, 10, c'est plutôt des démons. Donc tout ce qui, l'intérêt de ce jeu, c'est vraiment la synergie entre les différentes cartes, parce qu'elles fonctionnent toutes de façon différente, et tu as des cartes qui interagissent plus ou moins bien entre elles, et c'est la façon dont toi tu vas jouer ton jeu qui va en faire la puissance. Il n'y a pas d'excuse en disant « Oh, mais j'ai eu un deck tout pourri ouais, ». Non, c'est juste qu'il faut que tu apprennes un peu à le jouer, etc.
Et en plus, le fait d'avoir des cartes soi-disant rares, comme là d'en parler du double set des cavaliers, voilà. En fait, c'est absurde, parce que s'il y a une carte rare dans ton deck, c'est qu'elle a une utilité.
Exactement.
Et elle va peut-être comboter avec une carte qui est complètement inutile, que toi tu penses inutile, mais en fait c'est
technique.
Voilà, mais qui va donc interagir avec une autre carte, merci Dom, et que toi tu l'as pas encore vue, mais tu vas te focaliser sur ta rare en disant j'ai une rare, super, je vais gagner. En fait, non.
Il y a des decks. Un deck que j'ai joué, bon là, ouais. Je suis peut-être même pas une dizaine de fois, 5 à 6 fois, et à chaque fois c'était complètement différent, puisque les cartes que je tirais au hasard au début c'était pas les mêmes, donc la partie s'est déroulée et comme mon adversaire était différent, peut-être même s'il a les mêmes maisons que moi, ça va se passer de façon complètement différentes. C'est ça qui est excellent.
Donc si j'ai bien compris, il y a une base de données centralisée auprès du créateur et que peut-être un jour les pirates accéderont aux données.
D'ailleurs, justement, puisque les noms sont générés aléatoirement, ce qu'ils ont fait au début, c'est qu'ils ont mis des milliers de mots, peut-être pas aléatoires, dans la base de données, et ça a donné des dons. Il est possible que tu obtiennes un deck avec un nom, là où les deux decks que vous avez ouverts, qui sont à peu près normaux, sont assez sympas. Il a l'impression que ton deck est un petit peu gentil, mais ça veut rien dire. C'est peut-être très agressif comme type de jeu. Et il y a eu des decks qui ont été bannis. Parce que parmi les mots qui existent, il y avait le mot racisme, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais. Et donc, mais si tu obtiens un deck qui s'appelle, Martin, le tueur de racisme, ou le chasseur de racisme, c'est pas mal. Mais on est tombé sur des decks qui a eu. Le plus connu, c'est Titan Flayer, The Farmer of Racism. Donc, le cultivateur de racisme. Et tu vois, ce deck-là, une fois que la personne l'a enregistré, il y a les patrons, M. Garfield et ça, qui ont dit ton deck-là, tu peux nous l'envoyer, on va t'en donner 2 gratuits, mais tu n'auras pas le droit de le jouer. Il sera interdit, tu ne pourras pas jouer avec. Tu peux le garder si tu veux, hein. Mais tu peux pas.
Il sera interdit si tu joues sur Internet.
Parce que le nom est offensif. Voilà, le nom est offensif. Enfin, un nom qui est un
mais
peu
dans
offensif.
Le tournoi du magasin du coin.
Au contraire. Oui, peut-être même qu'il y a un marché noir pour ces fameux decks bannis, ces decks interdits. Je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup maintenant. Il y en a pas mal. Mais des fois, tu peux tomber sur des trucs sympas. Il y en a un mot qui c'est l'empereur qui paye pour les garçons.
C'est gênant.
C'était peut-être réservé pour le marché chinois, mais il arrive en français.
Peut-être. Par contre, tu peux avoir des. Par exemple, tu as la femme qui donnait des coups de boule au requin. Ça, il y a un deck qui s'appelle comme ça en anglais.
C'est pas magnifique.
Ah, moi, j'ai eu la chance, d'avoir un deck. Moi, je vais laisser Christophe lire le nom de mon deck.
Ricardo le poilu. Le poilu, pardon.
Ricardo le poilu. C'est magnifique.
C'est bien pour partir à la guerre.
Celui-là, je risque pas de le... Celui-là, je vais le garder, il va être culte.
Et la carte épique qui fait un clin d'œil à notre équipe de la Nozer Podcast, c'est Mr. T.
Ah oui, non, ça, il y a un deck qui s'appelle Mr. T's Pitiful. Ah, ça, c'est celui-là, si jamais, mettre la main dessus.
Quelle beauté.
Mais même dans l'humour. Alors, il faut dire que, on parlait du jeu lui-même, les dessins sont. Chacune des 7 factions a un dessinateur ou un pool de dessinateurs particuliers. Les dessins sont vraiment très sympas. Il y en a que je préfère plus ou moins. Même dans les noms, les Français se sont amusés. Il y a une carte qui s'appelle C'est Skippy. C'est pas Skippy le kangourou, c'est Skippy le porc-gourou, en fait. C'est une espèce de cochon qui s'appelle Skippy le porc-gourou. Et je lui ai demandé que j'aime bien celui-là.
Donc voilà, on peut que vous conseiller Keyforge, sachant qu'il y a juste à acheter un petit deck de cartes et prendre des pions qui traînent dans votre appartement.
Il faut un deck pour toi, un deck pour ton adversaire.
Voilà, t'as en fait pour 20 euros et puis des jetons et tout qui peut traîner chez toi. Voilà,
tu prends
pour
des boutons, tu prends n'importe quoi.
Et tu peux jouer. Et après, quand tu t'es lassé de ton jeu, tu l'échanges avec un pote, tu joues avec le sien.
Il y a déjà des tournois, pas encore des tournois officiels, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, comme les decks sont aléatoires, il y en a peut-être qui sont plus ou moins puissants. Mais il y a un système qui est prévu que plus tard, quand il y aura des tournois, si tu as un deck qui commence à gagner beaucoup, tu vas te prendre des handicaps. C'est un petit peu comme, je sais pas, en football, par exemple, tu as le Paris Saint-Germain qui va jouer en Coupe de France contre une petite équipe de débutants. On leur dit, toi, tu commences à gagner trop. Pour que ça soit équilibré, au lieu d'avoir 11 joueurs sur le terrain, tu as le droit qu'en avoir 9 ou 8. Des choses comme ça, tu vois.
Mais qui déciderait ça dans ce cas-là, non?
Ça sera géré justement par l'éditeur, l'application
officielle.
J'espère
que Qatar n'a pas acheté de deck.
Je voudrais dire pour les gens qui nous écoutent que je suis entouré de spécialistes, puisque quand même les cartes sont protégées de manière.
C'est justement parce que là, comme on parle du deck qui soit unique. Si jamais tu détériores une carte, parce que on peut jouer sur une table de café avec des bières, tout ça, enfin bon, on va pas raconter nos vies, mais si tu détériores une carte et que tu la détruis, va trouver le SAV pour te refournir carte.
Ah oui, si ta carte est abîmée, perdue, il n'y a pas question de te la réimprimer, elle est unique, sans tu.
Tu refais un dessin, c'est bon.
Certains tournois, ça sera peut-être autorisé. Et en plus, il faut les protéger parce qu'il y a des joueurs très malins qui peuvent marquer les cartes pour savoir, parce que tu vas piocher des cartes un petit peu, on va dire comme au poker ou je ne sais quoi, tu vas piocher tes cartes. Donc si tu arrives à faire des petites marques sur tes cartes, tu vas pouvoir les reconnaître, tu vas savoir ce qui arrive.
Avec
donc pour éviter ça,
on met des
protège-cartes opaques. C'est très puissant.
Donc finalement, ça sert à rien d'essayer de créer un jeu concurrent, parce que ce serait pas. Tu peux te lancer dans la fabrication de protège de plastique pour protéger les cartes.
Là, il y a un bon marché là-dessus. Oui, c'est vrai.
Et tu parlais de tournois, et justement, en parlant de tournois, en prenant les decks ce matin, les boutiques ont enfin reçu les premières boîtes pour créer des tournois officiels.
On a déjà participé, nous, à des tournois. Des tournois très sympas en mode scellé où tu arrives, tu achètes un deck qui est scellé. Et tu es obligé de jouer avec le deck que tu découvres.
Ça, c'est génial.
Voilà. Et moi, mercredi, je suis allé à un tournoi que j'ai remporté. Avec un deck que j'ai apporté. Et qu'est-ce que j'ai gagné, devine, à la fin?
Des decks.
J'ai gagné un deck de Keyforge.
C'est pas un seul.
Pour l'instant, il n'y a pas de pack officiel, justement, qu'ils sont en train de recevoir. Donc, il y aura des meilleurs lots plus tard.
Allez, on va faire une petite faveur au magazine des séries qui enchaîne juste après. Est-ce qu'on va encore passer du William Shatner? Je sais que ça peut leur plaire avec une version, un peu comme tout à l'heure, une version différente, une version un peu punk,
un peu plus
nerveuse, un peu rock, dans l'esprit de Noël. Bon, il parle un peu au début, mais forcément. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. We're going now, we're going now. Go! Laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. On a pas eu le temps de parler des autres news, la personne qui a essayé de simuler avec du rosé, c'est dommage. Voilà, c'était la fin de cet épisode de Heureusement en France, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, ciao. Take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. You gotta do a drifted bank, and then we got up.
time, son. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, singing this sleighing song. Get a bobtail, babe, 240 as a speed. Hitch him to an open sleigh, crank, you take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yeah, it's me. It's Henry, Bill. Yes. Okay, one last chorus. We'll be fine. Okay. Now, Bill, now! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!